RMC, carrément Brunet, Éric Brunet.
Voilà, citoyennes, citoyens, l'échange auquel je vous convie aujourd'hui. Et, croyez-moi, on n'est pas dans quelque chose d'éthéré. On n'est pas dans quelque chose de lointain. On est au cœur même de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, de tout le discours politique ambiant depuis des années, que dis-je, des décennies, l'égalitarisme, ce qui pour moi est la pathologie française, la grande pathologie française. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais être un peu feignant, je vais vous faire passer des sons, des interviews, des sons que j'ai trouvé absolument géniaux sur ce sujet. On va commencer déjà avec Jiang Min. Alors c'est l'ancien ambassadeur de Chine, voilà ce qu'il disait il y a quelques mois. Vous savez, les Chinois, l'égalitarisme, ils ont connu, hein, comme les Russes, hein, des décennies de communisme, ils savent ce que c'est que l'égalitarisme. Écoutez, c'était il y a quelques mois, l'ancien ambassadeur de Chine en France.
L'égalitarisme est une maladie qui disparaît difficilement, qui tire son origine dans le populisme. Avec l'égalitarisme, on peut gagner beaucoup de voix dans les élections. C'est ça qui compte.
J'adore. Mais tout est dit, avec l'égalitarisme, on peut gagner beaucoup de voix dans les élections. Tiens, écoute, deuxième son de Jiang Min, ancien ambassadeur de Chine en France.
Il y a une maladie contagieuse qui s'appelle l'égalitarisme. Nous, les Chinois, nous avons vécu ça. Nous croyons que la Chine, les Chinois, pourraient s'enrichir en même temps et de la même façon. C'est de l'utopie pure et simple. Parce que l'égalitarisme tue l'initiative, tue l'acteur au travail. Auparavant, nous avons pratiqué ça, l'égalitarisme en Chine. Qu'on travaille bien ou mal, on gagne la même chose. Donc, on n'a plus d'enthousiasme au travail.
J'aime bien quand même le type, voilà, qui a été confronté au communisme pendant des décennies, qui vient nous dire, bon, l'égalitarisme, attention, les mecs, c'est quand même un truc un peu contre-performant, finalement, hein, qui risque de générer plus de problèmes que de résoudre de solutions. Alors, ça va, Camille ?
Bah oui, ça va, pardon, et
c'est
toi?
C'est un débat un peu intellectuel aujourd'hui, hein. Quand je dis intellectuel, non, au sens noble du mot, c'est-à-dire qu'on on n'est pas sur le 49-3, on va pas parler de Macron ou de Valls. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on touche à une matrice de la vie politique française et à mon avis à un grand quiproquo, à un grand quiproquo politique. Mais bon, alors les invités rapidement, il y a Frédéric Georges Tudeau. Alors Frédéric Georges Tudeau, c'est un journaliste économique qui a été rédacteur en chef adjoint de L'Entreprise puis de Management. Il a écrit des livres sur l'argent. Il a notamment Salaud de riche il y a quelques années. Et là, il publie un livre contre Thomas Piketty, qui s'intitule Piketty au piquet aux éditions du Moment. Voilà. Et la question de l'égalitarisme, il y a beaucoup réfléchi et il est un peu, je dirais même totalement sur ma ligne. Face à nous, il y aura Gérard Filoche, que tu connais, Camille.
Bah oui, que je connais, que tu connais aussi.
Oui, il a été inspecteur du travail pendant 30 ans. Il est membre du bureau national du Parti Socialiste. Il est à l'aile gauche du Parti Socialiste. C'est un militant syndical. Il sera avec nous dans quelques instants et il va publier un livre en mars prochain sur l'entreprise. D'ailleurs, on l'invitera. Vive l'entreprise. Mais il y a un point d'interrogation. Vive l'entreprise. Ouais. Bon, voilà, j'ai planté le décor. Est-ce que toi, tu peux, s'il te plaît, planter le décor du Brunet-Métrie? Sur quoi est-ce qu'on vote aujourd'hui?
Alors, pour toi, Éric, l'égalitarisme est une vraie maladie française. Et comme toute maladie, je pense qu'il faut la combattre. Alors, si comme Jiang Min et comme Éric Brunet, vous êtes d'accord, vous votez carrément d'accord RMC.fr.
C'est ma nouvelle idole. Jiang Min.
L'ancien ambassadeur de Chine en France,
je crois qu'on va se repasser toutes les 3 minutes en boucle son truc. Là, l'égalitarisme est une maladie contagieuse. J'adore, il est formidable, je l'aime, à tout de suite.
RMC, maintenant que vous avez l'avis d'Éric Brunet, donnez le vôtre au 3216.
Marre de payer trop cher vos consommables?
Vite, changez de fournisseur et passez en mode Easy Cartouche.
Easy Cartouche.
Achetez vos cartouches d'encre et tonnerre pour imprimante avec des réductions jusqu'à moins 80%. Oui, moins 80%. Easy Cartouche, c'est la livraison en 24 heures pour les professionnels et les particuliers. Pour commander, c'est facile. Un simple clic sur easycartouche.fr et le tour est joué. Notez bien www.easycartouche.fr.
Easycartouche.fr, toutes vos cartouches à prix discount.
Seat. Chez Seat,
Seat, on ne vous fait pas de promesses, on vous en fait quatre. Les quatre promesses Seat. Sur toute la gamme Ibiza, profitez à partir de 149 euros par mois de 4 ans de location, de garantie, de mobilité et surtout 4 ans d'entretien inclus. Avec les quatre promesses Seat, roulez sereinement en Ibiza à partir de 149 euros par mois.
Location longue durée sans apport et 48 loyers de 149 euros valables jusqu'au 30 avril. Exemple sur Ibiza et ses références à litre de 60 chevaux pour 40 000 km max hors assurance facultative. Offre particulière dans le réseau Seat sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Détail des quatre promesses Seat sur seat.fr.
RMC, 13h, 14h, c'est carrément Brunet.
La République, mes chers amis, ce n'est pas l'égalitarisme. La République, ce n'est pas le nivellement. La République, ce n'est pas la facilité. La République, c'est le mérite, c'est l'exigence, c'est la promotion de l'excellence.
Éric Brunet.
Ah, ça faisait un petit moment dans cette émission qu'on n'avait pas entendu le Sarko, hein. Ça faisait même longtemps. Ça, c'était pendant la campagne de 2012, Nicolas Sarkozy. Alors, mesdames, messieurs, ne soyez pas dupes, cette émission est éminemment politique. Éminemment politique. C'est très politique. Et c'est très simple. L'équation, elle est simple. C'est les tenants de l'égalitarisme contre les tenants de la méritocratie. Et quand je parle dans Carrément Brunet de match d'opinion, parfois j'utilise cette expression pour dire on va confronter nos opinions. Et comme dans un repas de famille le dimanche midi, vous savez, où il y a l'oncle communiste, le neveu Front National, le papa UMP, la maman socialiste, et qu'est-ce que j'ai oublié, le communiste, oui, non, je l'ai dit. Bon, et bien, vous voyez, et puis celui qui va pas aux urnes, n'est-ce pas? Bon, et bien, on est un peu là-dedans parce qu'on est dans un indémodable de la vie politique française probablement, mais pour moi on est aussi dans un truc qui est matriciel, fondamental. Voilà. Et moi j'aimerais, c'est très personnel, que nous nous débarrassions de cette pathologie qui est celle de l'égalitarisme. Bon, il y a Benjamin, avant que je vous présente mes invités, il y a Benjamin qui m'appelle de Vendée, il a 35 ans. Benjamin, bonjour.
Bonjour Monsieur Brunet.
Alors ce qui est très amusant, Benjamin, c'est que vous êtes entrepreneur et que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Bah non, parce que d'une manière générale, si on reprend le sens de l'égalité et donc de l'extrême de l'égalitarisme, à l'origine du mot, ça veut dire uni ou juste. Ça veut pas dire identique. Et aujourd'hui, l'exemple en est, c'est qu'on peut être égal à avoir un anniversaire tous les deux, le fêter, mais aujourd'hui c'est le mien et pas le vôtre.
Donc bon anniversaire, Benjamin.
Merci. Et donc de ce fait-là, aujourd'hui, j'entends ce que vous dites par rapport au fait que ça pourrait devenir ou c'est déjà un cancer pour notre société. Le problème est plutôt dans la lecture de ce qui est juste ou être uni. Hein. C'est là où aujourd'hui l'intrusion de l'État à certains niveaux font que on peut avoir que ça baisse le niveau, ça nivelle vers le bas plutôt que ça augmente, comme pourrait être la société anglaise qui va promouvoir les individualités pour pouvoir amener de la performance. On peut être d'accord avec l'état d'esprit, mais quand on va vraiment dans les faits aujourd'hui en France, il n'y a pas de réelle égalité. Il n'y a pas de réelle égalité dans les établissements scolaires et dans les structures.
Mais heureusement, il n'y a pas de réelle égalité. Dans quoi il n'y a pas d'égalité? Vous avez parlé d'école, là, ça me gêne un peu. Il n'y a pas d'égalité dans l'école?
Non, les structures des écoles et les moyens qui sont mis pour les établissements scolaires publics partout sur le territoire ne sont pas identiques au niveau des infrastructures, au niveau des moyens mis. Donc déjà...
Attendez, je comprends, ils sont pas, tous les citoyens français n'ont pas le droit d'aller à l'école, n'ont pas le droit d'avoir des professeurs. Alors, vous allez me parler quoi d'absentéisme, c'est quoi, ils sont inégaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui doivent faire plus de kilomètres parce qu'ils sont à la campagne pour aller trouver un collège ou un lycée que d'autres qui sont au centre-ville de Nantes ou de Bordeaux, c'est sûr, mais bon, est-ce que...
Alors non, c'est plus dans l'accès. Par exemple, alors si on prend ça d'une
base, oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui accèdent aux grandes écoles et puis d'autres qui ont des résultats scolaires plus mauvais, qui peuvent pas intégrer HEC. Oui.
Non, mais il y en a dans leur établissement public qui ont des structures sportives que d'autres n'ont pas. Et donc ça permet, voilà. Et donc aujourd'hui, on pourrait taper dans tout. Je vais donner un exemple très simple. La CAF pour les enfants. On a tous des enfants, on a tous droit à une CAF. Donc on estime que c'est égal. Ouais. Et de ce fait-là, je vous connais un petit peu. Vous allez même dire que, il y a l'égalitarisme derrière de vouloir tout le monde donner une CAF. Mais moi, là où je vous dirais qu'en fait, compte, il n'y a pas d'égalité et donc pas d'égalitarisme, c'est que la CAF aujourd'hui est donnée pour tous ceux qui ont des enfants, mais sans regarder le revenu. Donc, au final, on n'est pas juste. Même si au départ, l'idée peut être bonne de l'égalité, en réalité, nous n'appliquons jamais l'égalité.
Benjamin, il n'y a pas un pays au monde, sur les 200 pays du monde, qui déploie autant d'argent, de moyens. Je dis pas qu'on y arrive, puisqu'on n'y arrivera jamais, mais pour corriger les inégalités. C'est l'obsession de tous. C'est-à-dire, moi, je discutais hier avec un copain à moi qui me disait, est-ce que tu imagines, écoute bien, Benjamin, la dimension un peu ubuesque de mon propos, mais qui me disait, sincèrement, il me disait, est-ce que tu imagines tous les migrants qui sont en France, sans leur famille, qui vivent dans une misère affective et sexuelle? Et souvent, ils viennent sans leur femme, etc., comme ils ont un statut social difficile, compliqué, et qu'ils soient clandestins ou pas, d'ailleurs, bon, ces gens vivent dans une souffrance affective et sexuelle qui est indéniable. Et mon copain, qui est très de gauche, me disait, tu sais, il faudrait le droit à la sexualité, c'est un droit pour lequel il faut se battre. Et donc je lui dis, mais j'entends, mais alors tu veux faire quoi? Et donc, on peut aller très loin, ça veut dire quoi? C'est le droit pour la sexualité, c'est-à-dire qu'il faudrait imposer à des femmes de s'offrir, tu vois, la logique dans laquelle
là,
on peut...
Ça, c'est l'égalitarisme.
C'est dire...
L'égalitarisme serait la possibilité de dire que tous ont le droit d'avoir des actes sexuels et que ça ne soit pas réprimandé, même s'ils sont en situation irrégulière au niveau de l'état dans lequel ils se trouvent, mais en aucun cas leur favoriser la possibilité d'avoir un acte sexuel.
À force de vouloir corriger toujours les inégalités, on arrive parfois à des trucs totalement ubuesques. Pour moi, l'égalité, c'est les mêmes droits pour tout le monde, et après il y aura toujours un type qui fera 14 km en zone rurale pour aller trouver un collège, et un autre qui fera 300 mètres parce qu'il sera à côté. Pardon,
c'est la diversité, Eric, je suis d'accord avec toi. Bon. Là où j'entends ce que tu dis derrière, c'est les moyens qui sont aujourd'hui mis sur la table pour les résultats obtenus. Là, je suis d'accord avec toi, voilà. on met beaucoup trop pour une égalité qui n'existe réellement pour moi pas. Là, je suis d'accord, mais aujourd'hui, il n'y a pas de l'égalitarisme de partout, ce n'est pas un cancer à mes yeux, parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas une réelle égalité. Aujourd'hui, les riches sont encore plus riches, les pauvres sont encore plus pauvres. Tu me dis où c'est qu'on a mis l'égalité sur les dernières années? L'accroissement est encore là. Il y en a bien.
Benjamin, oublie la France. Le capitalisme mondialisé, quelle horreur. Le capitalisme mondialisé, au cours des 10 dernières années, a fait juste disparaître de la pauvreté 1 milliard de personnes. 1 milliard de citoyens dans le monde, en particulier en Chine, grâce à cette horreur, le capitalisme mondialisé, a permis vraiment 1 milliard de personnes de sortir de l'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'en réalité, la pauvreté diminue dans le monde. C'est vrai qu'il y a plus de riches, c'est vrai que les écarts sont de plus en plus importants, mais pour autant, il y a moins de pauvres, et ça, j'entends moins de gens le dire. Bonjour, on va saluer notre invité, et après, on va aller voir tout de suite Gérard Filoche. Bonjour Frédéric Georges Tudeau.
Bonjour Eric.
Bon, d'accord avec cette idée, je sais que vous avez publié Piketty au piquet, cet ouvrage sur pour vous ce qui est une imposture dans la théorie économique, celle de Thomas Piketty, mais je sais que c'est un de vos combats, hein, cette idée que l'égalitarisme est pas forcément un combat qu'on devrait avoir au cœur de notre politique en France.
Non, je pense qu'en fait, les gens confondent l'égalité et l'égalitarisme, d'ailleurs, hein, vous en avez parlé. Et c'est quoi, en fait, l'égalitarisme? C'est une sorte de perversion de l'égalité, à savoir que c'est une doctrine qui prône l'égalité absolue entre tous les citoyens, tant du point de vue juridique, on est tous d'accord, tous les mêmes droits, parfait, que du point de vue social. Et là, ça devient impossible. On ne peut pas permettre à tout le monde d'accéder à une grande richesse. Donc, qu'est-ce qui reste? Nivelé par le bas, en essayant d'appauvrir plus ou moins tout le monde pour que tout le monde soit égal. C'est un petit peu la définition la plus simple. Et du coup, poussé à son paroxysme, comme ça a été le cas tant de fois dans l'histoire du XXe siècle, on a une doctrine qui a deux conséquences inévitables. Le désastre économique, la pauvreté pour tout le monde, et puis la dictature. Parce que si vous permettez pas aux gens de se hisser au-dessus des autres, par leur mérite, par leur chance, bien entendu, vous les contraignez et c'est la dictature qui se met en place.
Et cette idée selon laquelle si on récupérait l'argent des riches, l'argent de l'évasion fiscale par exemple, si on récupérait ces milliards et ces milliards, ce serait la fin de la pauvreté en France. Et c'est une idée qui est communément répandue.
Alors, on pourra en parler de l'évasion fiscale, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un institut canadien qui a fait l'expérience, enfin qui a fait le calcul. Il a imaginé reverser 100% des salaires des 100 patrons les plus riches du Canada. Ça fait à peu près 700 millions d'euros et les reverser à tous les salariés de ces entreprises. Et vous savez combien ça leur fait? Ça leur fait 60 centimes d'euros de plus par jour. Maintenant, si vous donnez ces 100% à tous les Canadiens en dessous du seuil de pauvreté, ça leur fait 30 centimes de plus par jour. Mmh. Donc, qu'est-ce que dit cette enquête? Qu'il y aura jamais suffisamment de riches pour tout déverser. On peut tout déverser, mais ça n'aura absolument aucun impact. Non, non, si vous voulez plus de richesse et moins de pauvreté, laissez aux gens la possibilité d'entreprendre, de créer leur propre richesse.
C'est une maladie française, enfin, maladie, Philoche avec nous dira pas que c'est une maladie, mais c'est, on va dire que c'est un tropisme français, typiquement, l'égalitarisme, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un truc qu'on trouve que chez nous, cette espèce de volonté politique systématique de corriger les inégalités, ça c'est un mot, on l'entend même plus tellement on les entend de parler de corriger les inégalités. C'est-à-dire que, bon, est-ce que en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, on parle toujours comme ça de corriger les inégalités?
Alors, on pourra toujours débattre de ce qui est la principale maladie, le principal cancer français. Il y en a d'autres, hein. La dette publique, le poids des syndicats, la fonction publique obèse.
Mais dans l'action publique, dans l'action politique.
Je pense que au-delà de ce débat, on est tous d'accord.
Ce qui est très important, là, franchement, aujourd'hui, Frédéric Georges Tudeau, c'est que quand un politique parle de l'action qu'il va mettre en œuvre, dans le monde anglo-saxon, mais pas que, on dit, voilà, on va essayer de générer de la croissance, rendre notre pays plus accueillant pour les sociétés étrangères, etc. Chez nous, on dit rarement ça, ou un peu moins, ou alors c'est plus récent, mais on dit plutôt, moi je vais tout mettre en œuvre, mesdames, messieurs, si vous votez pour moi, pour corriger les inégalités.
Oui. Voilà.
Alors ça c'est vraiment, et là ouais, formidable, on vote. Et vous entendiez le chinois tout à l'heure, il disait que c'était une forme de populisme, que ce discours, qui est un populisme de gauche finalement, ce discours-là.
Ce qu'on fait, c'est voilà, on voudrait partager le gâteau sans jamais le faire grossir, en part plus égale. Et si vous raisonnez ainsi, bah vous dissuadez les cuisiniers de cuisiner et le gâteau devient de plus en plus petit, quoi. Et on est quand même d'accord que le problème numéro un en France, en ce moment, c'est le chômage endémique. Et il est intimement lié à l'égalitarisme. C'est-à-dire que si vous découragez les entrepreneurs, ou en tout cas les futurs entrepreneurs, ceux qui ont vocation à entreprendre, si vous pénalisez ceux qui ont entrepris et qui ont réussi, ben ils s'en vont. Et s'ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Il y a de moins en moins d'activités économiques et de plus en plus de pauvreté, donc de plus en plus d'égalitarisme à l'issue.
Mesdames, messieurs, dans une petite minute, Gérard Philoche, comme il y a une pub, là, on va pas commencer avec Gérard, on va passer la pub, Camille, et comme ça, dans une minute, on commence directement avec Gérard Philoche. Nous ne l'interromprons pas ainsi, Gérard Philoche, membre du Bureau national du Parti socialiste. Camille.
Alors, vous êtes assez nombreux finalement à être d'accord avec Eric. Vous êtes 66% à penser que l'égalitarisme doit être combattu.
C'est pas assez pour gagner, parce qu'il y a le Philoche qui va venir, là, il va égaliser. Le Philoche, c'est pas bon.
Il aurait fallu
que je commence le match avec 75%, Camille. Mais j'ai un petit son de Diftréard, tiens, que je vous ferai écouter, de Diftréard du Figaro tout à l'heure. Je vous ferai écouter, voilà. Bon, mesdames, messieurs, très sérieusement, j'aimerais que vous votiez sur ce sujet qui me semble assez matriciel, puisqu'on touche au cœur de notre République. Voilà. Et que vous votiez sur rmc.fr, c'est gratuit. Dans un instant, nous serons avec Gérard Philoche.
RMC, carrément Brunet. RMC, carrément Brunet, Éric Brunet.
Voilà, citoyennes, citoyens, l'échange auquel je vous convie aujourd'hui. Et croyez-moi, on n'est pas dans quelque chose d'éthéré. On n'est pas dans quelque chose de lointain. On est au cœur même de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, de tout le discours politique ambiant depuis des années, que dis-je, des décennies, l'égalitarisme, ce qui pour moi est la pathologie française, la grande pathologie française. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais être un peu feignant. Je vais vous faire passer des sons, des interviews, des sons que j'ai trouvé absolument géniaux sur ce sujet. On va commencer déjà avec Jiang Min. Alors, c'est l'ancien ambassadeur de Chine. Voilà ce qu'il disait il y a quelques mois. Vous savez, les Chinois, l'égalitarisme, ils ont connu, hein, comme les Russes, hein, des décennies de communisme. Ils savent ce que c'est que l'égalitarisme. Écoutez, c'était il y a quelques mois, l'ancien ambassadeur de Chine en France.
L'égalitarisme est une maladie qui disparaît difficilement, qui tire son origine dans le populisme. Avec l'égalitarisme, on peut gagner beaucoup de voix dans les élections. C'est ça qui compte.
J'adore. Mais tout est dit, avec l'égalitarisme, on peut gagner beaucoup de voix dans les élections. Tiens, écoute, deuxième son de Jiang Min, ancien ambassadeur de Chine en France.
Il y a une maladie contagieuse qui s'appelle l'égalitarisme. Nous, les Chinois, nous avons vécu ça. Nous croyons que la Chine, les Chinois, pourraient s'enrichir en même temps et de la même façon. C'est de l'utopie pure et simple. Parce que l'égalitarisme tue l'initiative, tue l'acteur au travail. Auparavant, nous avons pratiqué ça. L'égalitarisme en Chine, qu'on travaille bien ou mal, on gagne la même chose. Donc, on n'a plus d'enthousiasme au travail.
J'aime bien quand même le type, voilà, qui a été confronté au communisme pendant des décennies, qui vient nous dire, bon, l'égalitarisme, attention, les mecs, c'est quand même un truc un peu contre-performant, finalement, hein, qui risque de générer plus de problèmes que de résoudre de solutions. Alors, ça va, Camille?
Bah oui, ça va, pardon, et
c'est
toi?
C'est un débat un peu intellectuel aujourd'hui, hein. Quand je dis intellectuel, non, au sens noble du mot, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le 49-3, on va pas parler de Macron ou de Valls. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on touche à une matrice de la vie politique française et à mon avis, à un grand quiproquo. Mmh. À un grand quiproquo politique. Mais bon, alors, les invités rapidement. Il y a Frédéric-Georges Tudeau. Alors, Frédéric-Georges Tudeau, c'est un journaliste économique qui a été rédacteur en chef adjoint de L'Entreprise, puis de Management. Il a écrit des livres sur l'argent. Il a notamment Salaud de riche il y a quelques années. Et là, il publie un livre contre Thomas Piketty, qui s'intitule Piketty au piquet aux éditions du Moment. Voilà. Et la question de l'égalitarisme, il y a beaucoup réfléchi et il est un peu, je dirais même totalement sur ma ligne. Face à nous, il y aura Gérard Filoche que tu connais, Camille.
Bah oui, que je connais, que tu connais aussi.
Oui, il a été inspecteur du travail pendant 30 ans. Il est membre du bureau national du Parti Socialiste. Il est à l'aile gauche du Parti Socialiste. C'est un militant syndical. Il sera avec nous dans quelques instants et il va publier un livre en mars prochain sur l'entreprise. D'ailleurs, on l'invitera. Vive l'entreprise. Mais il y a un point d'interrogation. Vive l'entreprise. Ouais. Bon, voilà, j'ai planté le décor. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, planter le décor du Brunet-Métrie? Sur quoi est-ce qu'on vote aujourd'hui?
Alors, pour toi, Eric, l'égalitarisme est une vraie maladie française. Et comme toute maladie, je pense qu'il faut la combattre. Alors, si comme Jiang Min et comme Eric Brunet, vous êtes d'accord, vous votez carrément d'accord RMC.fr.
C'est ma nouvelle idole, Jiang Min.
L'ancien ambassadeur de Chine en France,
je crois qu'on va se repasser toutes les 3 minutes en boucle son truc. Là, l'égalitarisme est une maladie contagieuse. J'adore, il est formidable, je l'aime, à tout de suite.
RMC, maintenant que vous avez l'avis d'Éric Brunet, donnez le vôtre au 32-16. RMC jusqu'à 14h, pour ou contre Brunet? Prenez parti, Éric Brunet dans Carrément Brunet sur RMC.
Bonjour Gérard Filoche.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Oh, je vous trouve trop apaisé. Faites-moi un bonjour un peu plus énergique quand même.
Eh ben, je vais vous dire que le mot égalitarisme n'a pas de sens. Pourquoi mettre un isme? Moi, je défends la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et je constate qu'elle n'est pas du tout appliquée dans notre pays, contrairement à ce que vous nous décrivez. L'OCDE dit bien que depuis les années 80, les inégalités se sont accrues en France. L'indice européen de justice sociale, tenu à jour par l'Europe, place la France au 12e rang, loin derrière la Slovénie, la Lettonie, la Belgique, et juste derrière le Royaume-Uni, Malte et la Lituanie. En France, nous avons deux personnes, Arnaud et Bettencourt pour les nommer, qui possèdent plus que 20 millions de Français. Nous avons 1% des gens qui possèdent 25% des richesses. Nous avons 500 familles qui possèdent une fois et demie le budget de l'État. Nous avons 80 milliards de fraude fiscale, c'est pas nous les petits qui la faisons, c'est les riches. Il y a 600 milliards, le double du budget de l'État, d'avoir français dans les paradis fiscaux, qui se sont évadés et dont on n'a pas pour nos hôpitaux, nos écoles, nos équipements collectifs, nos salaires, nos emplois. Ce qui nous manque aujourd'hui le plus, c'est l'égalité, parce que c'est ça qui fait qu'il y a 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres en dessous de 900 euros. Se poser la question de dire qu'il y a trop d'égalité, c'est voir le monde à l'envers. Parce que que la principale cause de la crise que nous subissons, c'est l'inégalité.
Mmh.
Parce
non, mais,
que
le, Gérard,
l'économie ne peut pas marcher
comme ça.
Je suis d'accord. Laissez-moi terminer juste sur un point. Ce n'est pas seulement le point de la France, c'est le point du monde. Le monde est gangréné, catastrophé par cela. Vous savez que 85 hommes possèdent plus que la moitié de l'humanité.
C'est
pire qu'au Moyen-Âge, que dans toutes les époques précédentes. C'est-à-dire qu'il y a un pillage. Il y a des gens qui augmentent d'un euro ou deux leur avoir, mais les autres l'augmentent de milliards.
Mmh.
85 hommes.
Frédéric Georges Tudeau veut réagir. Attendez,
85 hommes qui possèdent la moitié de la planète.
Ouais.
Alors moi, je vous le dis, vive Thomas Piketty. Vive ceux qui ont mis à jour.
Frédéric Georges Tudeau, il n'est pas d'accord avec ça.
Les grands économistes comme Krugman, comme Stiglitz, qui disent que la principale question du monde actuel, c'est l'inégalité.
Non, c'est faux, bien sûr, c'est complètement bidon. Ça m'étonne pas de vous, d'ailleurs, Gérard Filoche, que vous reteniez ce genre de chiffres. C'est un chiffre de l'Oxfam, qui est une émanation d'Attac, donc une organisation d'extrême-gauche. Et comment est-ce qu'elle a fait pour calculer ça? Elle a pris les dettes, en fait, des Occidentaux. Donc, si vous êtes un étudiant à Harvard et que vous vous apprêtez à avoir une belle carrière et que vous avez emprunté 100 000 dollars pour faire vos études, vous vous retrouvez infiniment plus riche que le petit Africain qui, lui, n'a rien, ni dette, ni bien. Donc voilà comment on augmente arbitrairement, le niveau de pauvreté. Par exemple, quel est l'homme le plus pauvre sur la planète? Jérôme Kerviel. Il doit 5 milliards d'euros à la Société Générale, donc
Gérard Filoche, il y a un truc, vous avez probablement raison sur le fait que les inégalités s'accroissent, on est tous d'accord, la France a été tensée hier par les instances internationales parce que elle est un des pays d'Europe qui traite le plus mal ses migrants et ses clandestins, ai-je vu, etc., qu'il y ait des inégalités, on est d'accord, mais le sujet que je trouve fascinant, c'est que c'est bien mal payé pour le contribuable français. Bon sang de bonsoir, 70 milliards ou peut-être même plus de prestations familiales, les prestations sociales. Non. Je dis pas qu'on y arrive, Gérard Filoche.
Oui,
vous voyez, je suis sympa.
J'ai compris l'idée.
Bon, non, mais plus, on paye des milliards plus que les autres.
Alors, j'ai compris l'idée, monsieur. Je vais vous dire une chose.
La grand-mère qui va saigner pour payer ses impôts, bon sang de bonsoir, elle mériterait qu'on lui dise, madame, ben, grâce à votre fric, eh bien, on arrive à corriger les inégalités. Bon, et on n'y arrive jamais. C'est
l'idée.
Un truc sans fond.
J'ai compris l'idée. Puis-je vous dire qu'en France, il y a trois budgets, ce que les gens ne savent pas. Il y a le budget de l'État, il y a le budget des collectivités territoriales et celui de notre protection sociale. Celui de notre protection sociale, dont vous venez de parler à l'instant, c'est le plus important. Il fait 450 milliards. Mais il ne génère que 10% de la dette présumée du pays. Ce n'est pas lui qui est endetté. Et pourtant, les salaires sont trop bloqués et il y a 6 millions de chômeurs. Notre budget de protection sociale avec 10% de dettes générées est presque bien, il pose pas de problème. Les collectivités territoriales, elles génèrent 11,5% de la dette. C'est un peu plus, mais c'est pas là qu'est le problème. L'État a 78,5% de la dette totale qu'il génère. Mais c'est parce que les impôts, contrairement à ce que vous pensez, sont trop bas. Pas pour nous, pas pour moi, pas pour vous, pas pour les petites gens, mais pour ceux d'en haut, pour Total, pour les 58 multinationales qui ont blanchi leur argent au Luxembourg en enlevant 100 milliards des caisses de la République. 58 multinationales françaises ont été dénoncées dans ce qu'on appelle le LuxLeaks. Jean-Claude Juncker, le président du Luxembourg, l'économiste du Luxembourg et maintenant le président de l'Europe, blanchissait de l'argent comme un vulgaire mafieux. Et il prenait sa part. Et les entreprises qui là-bas se dédouanaient ne payaient donc pas d'impôts comme Total. Total fait 185 milliards, plus de la moitié du budget de l'État.
Alors,
et ne paye pas d'impôts en France. Donc l'origine des inégalités,
l'origine des évasions fiscales, de la fraude fiscale,
elle vient de là. Et nous souffrons tous de ça.
Frédéric,
rattrapait la fraude fiscale. Si on faisait revenir l'évasion fiscale, on n'aurait plus de problème pour notre sécurité sociale, pour nos écoles, pour nos salaires. On vivrait tous bien s'il n'y avait pas des pillards qui nous prenaient nos impôts en haut, ne les payaient pas et se goinfraient nos richesses pendant qu'on a 10 millions
d'euros. Frédéric Georges Tudeau, bon, c'est un argument de Filoche.
Bien sûr que Total paye ses impôts en France quand il fait des bénéfices en France et il les paye à l'étranger quand il fait des bénéfices à l'étranger. Il se trouve qu'il ne fait pas beaucoup de bénéfices en France. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais Revenons un peu à cette histoire d'exil ou de fraude fiscale. Faut pas oublier quand même à l'origine que l'impôt c'est rien d'autre qu'une une prise de guerre. Hein. C'est un butin exigé par le vainqueur sur le vaincu via l'usage
ça
de la force.
Pas, non. L'impôt c'est, pas... c'est la République, c'est la démocratie.
Je, attendez, je veux qu'il parle.
Excusez-moi, Gérard Filoche, je parle à l'origine. C'est pas pour rien d'ailleurs que fisc et confiscation ont la même racine. Mais bon, ok, les tyrans sont censés avoir été éradiqués, on vit désormais dans un état de droit, donc l'usage de cette force, il est limité à ce que le peuple considère comme raisonnable. C'est le fameux principe du consentement à l'impôt, c'est une condition indispensable au bon fonctionnement de la démocratie.
Je vous rappelle quand même que vous parlez de raisonnable, De Gaulle avait dit au-delà de 30%, ça devient déraisonnable. Bon, on est bien au-delà de 30% aujourd'hui pour bien des Français.
Mais oui, mais justement, le problème c'est que, comme le niveau de fiscalité... il atteint un niveau intolérable seulement pour une toute petite minorité, en l'occurrence les riches, bah, qu'est-ce qu'elle fait? La majorité, au mieux, elle s'en moque et laisse faire. Au pire, elle se frotte les mains, elle se dit qu'elle finira par en bénéficier d'une partie de ce butin confisqué. Et là, on est face à une forme de tyrannie. C'est la tyrannie de la majorité. Dans ces conditions, qu'est-ce qui reste aux riches entrepreneurs sinon la solution d'aller chercher ailleurs? Songez que dans ce pays, on a quand même des gens qui ne payent pas d'impôts sur le revenu et qui traitent ceux qui en payent énormément de déserteurs. C'est quand même ahurissant. Et revenons justement à l'affaire SwissLeaks, là. Rien que pour la HSBC, il y a eu 100 000 fraudeurs trouvés, on va dire. C'est bien la preuve qu'il y a eu une absence quasi totale de consentement à l'impôt chez ceux qui ont réussi. Idem, un autre chiffre qui est pas tellement connu, il y a 5 fois plus d'exilés fiscaux aux États-Unis qu'il y a 5 ans. Donc, si vous faites l'addition...
Attends, il y a 5 fois plus d'Américains qui s'exilent fiscalement
Qu'il y a 5 ans. Ça a été multiplié par 5. Donc, c'est le genre de chiffre que je ne serais pas censé sortir. Mais si, je le sors parce que c'est justement pour bien vous démontrer que le consentement à l'impôt chez cette petite partie de la population qui, elle, est pillée par les pillards, il disparaît ce consentement à l'impôt.
Vous appelez la fraude le non-consentement à l'impôt, vous?
Eh ben oui, quand il vous reste plus.
Rue, quand il exactement. Quelque chose dans le sac de quelqu'un, c'est un non consentement au respect du sac de quelqu'un.
Parce que quand vous générez 0,4% des revenus français et que vous êtes contraint de payer 5% de l'impôt
est-ce
sur le revenu
ce
total,
sont des voleurs,
c'est-à-dire
oui ou
plus
non.
de 10 fois, où est-ce que vous les trouvez, les pillards?
Est-ce que ce sont des voleurs, oui ou non? Parce qu'il y a 80 milliards, c'est le chiffre officiel, personne ne le conteste. Et peut-être on peut rajouter 100 milliards avec le Luxembourg. Mais il y a 80 milliards de fraude.
Mais personne ne le conteste, mais tout le monde le conteste. Tout le monde le conteste, monsieur Filoche, ce chiffre.
C'est bien du
il sort d'où? Il sort de vos réunions? Tout le
mais
monde le conteste,
Gérard
ce
Filoche,
chiffre.
Moi, Gérard Filoche, je me poserais et je ne trouverais pas... totalement transgressif qu'on pose la question du seuil d'acceptabilité. Hein. Je veux pas. Il y a des fois. Moi, je vais vous dire. Si j'étais riche, ça n'est pas le cas. Si j'étais riche, si je gagnais 100, et si vous me disiez, écoute, mon petit bonhomme, je vais te prendre 85. Voilà. Et oui, estime-toi heureux parce qu'avec les 15, il te reste de quoi bouffer et nourrir
savez,
tes membres. Eh ben, je vous dirais, Gérard, je me tire. Peut-être que je me tire.
Est-ce que vous savez, Eric Brunet, que Roosevelt avait mis une tranche d'impôt à 91% quand il y a eu la crise après
29. Avec plein de niches pour y
échapper. Qui est comme aujourd'hui.
C'était bourré de niches fiscales. Il y avait plein de niches fiscales pour les riches.
Fois le SMIC, 91% d'impôt. Et c'est la période aux États-Unis où ça s'est le mieux passé. Ça s'est dégradé depuis Reagan et Thatcher.
Mais Gérard Filoche, vous et moi, on va avoir encore un désaccord. L'État n'est pas tout. L'État, on l'a inventé pour qu'il nous facilite les choses. Pour qu'ils nous aiment, pour qu'ils nous donnent de l'amour.
Oui,
l'État, c'est pas. On est dans le zéro et l'infini, là, dans votre truc, le bouquin d'Arthur Koestler. Mais non, l'État, c'est pas tout.
Et 99% qui se font plumer.
Aucun État n'a le droit, Gérard Filoche, d'aller voir un type et dire vous, bonjour monsieur, passez-moi 90% de votre pognon. Aucun État, Gérard.
Ça n'a pas été fait aux États-Unis pendant 20 ans.
Eh ben, c'est une erreur, ils n'auraient pas dû le faire.
Non, c'était bien, c'était la belle période. Maintenant, il y a plus de pauvres, il y a des super riches. Maintenant, il y a moins de protection sociale, il y a plus de malades, il y a plus de gens malheureux.
Bon. Arrêtons un peu avec cette supercherie de l'État là qui prendrait toujours plus aux riches pour redistribuer aux pauvres. En fait, notre fameux modèle social là que le monde entier nous envie mais que personne ne veut imiter, il sert avant tout à financer les privilèges de caste, hein, les fonctionnaires, les artistes subventionnés,
bon,
les céréaliers, les corporations protégées.
Et
il est vrai aussi certains entrepreneurs qui bénéficient de commandes publiques. Mais que dire? Vous voulez que Vous voulez quoi? Pour payer des falafels à Jack Lang que les gens payent de plus en plus d'impôts?
Là,
mais arrêtez avec
niveau,
ça.
Le niveau zéro,
heureusement,
là.
Hein? Heureusement que les gens essayent de se protéger un minimum contre les pillards. Parce que alors, si vous parlez de pillards, les pillards, ils sont plutôt dans le camp de l'État.
Alors, attendez. Gérard Filoche. D'abord, dans l'ordre, on va écouter Gaël dans un instant qui nous appelle du Var. Il y a beaucoup d'appels au 3216. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter Yves Tréhard du Figaro. C'est un peu sadique, mais ça va vous. On s'endormait un peu, Gérard Filoche. Ça va nous réveiller.
On va se réveiller, c'est sûr.
Écoutez-le.
Chez les socialistes, ils confondent l'égalitarisme et l'égalité. Ils confondent l'uniformisation et la justice. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de nous niveler tous les uns les autres. Et je trouve ça extrêmement regrettable. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils voient, et ça c'est un travers qui existe depuis, pas sous Mitterrand, mais depuis Jospin, parce que sur le plan économique, comme la droite d'ailleurs, ils sont complètement impuissants face à cette espèce de vague qui nous dépasse tous, de chômage, de déficit, de non-pouvoir d'achat, et bien qu'ils agissent en accordant des droits, en donnant du droit, en jouant avec les droits qui ne leur coûtent rien.
Ah, Gérard Filoche, un peu vrai quand même, hein?
Pas un centime de vérité. Écoutez, depuis 2 ans, si Hollande va mal dans l'opinion, c'est justement parce que les inégalités se creusent. C'est justement parce qu'il n'a pas lutté contre la misère et qu'il n'a pas lutté contre le chômage. C'est justement parce qu'il n'a pas fait assez d'impôts du point de vue des riches. C'est justement parce qu'il n'a pas attaqué la finance. S'il avait attaqué la finance aujourd'hui, il serait en haut des sondages. Et c'est l'inverse de ce que dit Monsieur Tréhard qui est en cause aujourd'hui.
Je suis pas d'accord avec vous.
C'est l'accroissement des inégalités qui nous mine.
Frédéric Georges Tudeau.
Oui, parce que bon, comme Gérard Filoche aime bien citer des chiffres, on va citer les vrais, les officiels, ceux du Conseil des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire du ministère de l'Économie et des Finances.
Ah.
Est-ce que vous savez que les 3600 foyers les plus riches perçoivent 0,4% des revenus globaux et s'acquittent de 5% de l'impôt sur le revenu total. 5%, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'il génère.
Il y a 3000 personnes qui paient 5%.
3600 personnes, foyers, on va dire, qui paient 5%. Et bien sûr, mais ce sera jamais assez. Mais avec vous, avec des gens comme vous, Monsieur Filoche, ce sera jamais assez, et plus encore avec des gens comme Thomas Piketty. C'est exactement ce qu'il veut, Thomas Piketty.
Je suis pour un écart de revenus de 1 à 20. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Confédération européenne des syndicats de toute l'Europe.
Oui, c'est pas vous, c'est votre copain qui l'avait inventé, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'école, on est noté de 1 à 20, il n'y a pas de raison qu'on gagne de 1 à 600 plus tard. Et qu'il n'y a pas un humain. Pas un seul qui, par son talent, son génie, son savoir-faire, mérite de gagner plus de 20 fois qu'un autre. 20 fois, c'est déjà énorme.
Mais non, à chacun selon son mérite. Monsieur Filoche, si vous voulez que notre pays génère énormément de richesses, il faut permettre à ceux qui ont énormément de talent de devenir énormément riches.
20 fois,
c'est comme ça.
Oui.
Mais non, 20 fois, c'est rien. Mais attendez.
263 fois, non, mais monsieur de Marjorie.
C'est difficile, Gérard Filoche. Ça marche jamais quand on fait un plan en plancher ou un plafond, ça marche jamais. Imaginez qu'au PSG, c'est pas le meilleur exemple qu'on puisse donner, mais imaginez que dans un club de foot, on dise, nous avons une ambition, devenir patron du football européen, être les premiers à gagner la Champions League, mais comme on est un petit peu éco-responsable, hein, et socio-responsable, on va considérer que on pourra pas payer un type plus de 20 fois le SMIC, par exemple. Ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Et au bout d'un moment.
Vous mérite de gagner 20 fois plus qu'un gars.
Mais j'ai pas de jugement de valeur. Je dis ça.
Mais bien évidemment, on mérite de gagner tout simplement en fonction.
Non.
Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'Apple, qui est donc la société la plus riche aujourd'hui, et donc ses actionnaires sont immensément riches. On ne peut pas tous se ruer sur l'iPhone 6 et après se plaindre que Apple génère beaucoup d'argent. Apple génère beaucoup d'argent parce que Apple plaît à énormément de consommateurs.
Gérard Filoche, vous savez bien qu'aujourd'hui, la vertu, c'est-à-dire l'efficacité, elle est du côté des forces de l'argent. Si on vit plus vieux. Non, mais laissez-moi parler. Honnêtement, la recherche médicale française, elle a rien trouvé depuis 30 ans. Si aujourd'hui on vit plus vieux, c'est parce qu'il y a des méchants laboratoires pharmaceutiques avec des méchants laboratoires de recherche et développement développement, qui trouvent des molécules qui, sur la question de l'hypercholestérolémie, je sais pas quoi, moi, de l'hypertension, etc., permettent à nos parents de vivre un peu plus vieux.
Enfin, c'est les forces. Bah, oui, mais c'est. De pointe.
Bah oui, la médecine, oui,
même,
mais.
Non, non. Ils veulent même nous prendre nos découvertes.
Non, non. On a des grands médecins et des grands chirurgiens. Mais les molécules et les médocs, ils sont inventés hors de France, pas dans nos labos, hein. C'est pas Servier qui invente
les. Vous voulez dire quoi? Que ce sont les grands laboratoires qui ont pillé nos capacités? Oui, c'est vrai. Bah. Sanofi, par exemple, est un parfait exemple, qui est venu ici piller des milliards et qui a pris ces milliards, laissé les salariés.
Non, mais c'est pas Sanofi, c'est tous les laboratoires du monde, qu'ils soient suédois, britanniques, américains. Franchement, on adore vomir sur les laboratoires pharmaceutiques parce qu'on estime en France qu'ils sont emblématiques de ce capitalisme de requin. C'est peut-être vrai. N'empêche que si on vit plus vieux, c'est aussi et surtout, à mon avis, et même surtout, grâce à eux. Mais c'est considérable, les nouvelles molécules qui sont inventées depuis 10 ans.
Moi, je dis merci.
Je comprends bien.
C'est celle de l'idée que quand il y a plus de riches, ça finit par être bon pour les autres.
Ah, ben oui, alors là,
ça
je suis pour le ruissellement.
Les riches veulent toujours être plus riches.
Vous savez qu'il y a 300 millions de Chinois actuellement, 300 millions de Chinois qui vivent.
Vous savez ce qu'ils savent faire? Ils siphonnent. Ils prennent nos salaires.
Ouais, je crois pas à ça, moi.
Ils prennent le maximum. Ouais. Et ils en ont jamais assez.
Vous vous dites que le riche se construit sur le dos du pauvre.
Oui.
Et ça, c'est le 19e siècle,
Gérard
Philoc. Vous le savez bien, c'est le 19e siècle. C'est Zola.
Bon, alors, on va tous se parler les uns sur les autres. C'est impossible d'en placer une avec vous.
Allez,
donc, il y a 300 millions de Chinois qui vivent déjà, qui ont atteint le niveau de vie des Européens de l'Est. Ça, si c'est pas du ruissellement, je sais pas ce que c'est. Mais je voudrais revenir juste à cette histoire de Philoche qui voudrait que François Pinault gagne pas plus de 20 fois ce qu'il gagne lui. Ouais, très bien. Mais combien on gagne, nous tous, là, autour de cette table et lui au téléphone, par rapport au petit Africain? Mais 2000, 20 000 fois plus, je ne sais pas exactement. Mais ça, ça le dérange pas. C'est l'égalitarisme à la française typique, c'est-à-dire une générosité à géométrie variable. En demander toujours plus quand c'est pour récupérer, mais alors quand c'est pour donner, parce qu'on est bien d'accord, hein, qu'il y a quand même des centaines de millions de gens qui crèvent de faim, même s'il y en a de moins en moins grâce au capitalisme. Et alors là, on est en train de débattre, mais Gérard Philoche, ça vous en... Nuit pas du tout, ça ne vous dérange pas, hein, de les laisser crever.
Philoche.
Sans famille. Voilà, je suis pour récupérer la fraude fiscale, je suis pour la mettre dans l'éducation, je suis pour la mettre dans la santé, je suis pour la mettre dans les équipements collectifs, dans les TGV, dans les transports. On pourrait avoir un monde tellement meilleur s'il n'était pas pillé, volé par quelques poignées de riches.
Il n'est pas pillé, il n'est pas volé. Vous voyez
Mais
le
si.
Monde comme un grenier à grains dont certains
Mais
auraient
si.
La clé, là, comme ça, le soir, ils iraient discrètement servir et puis les autres trouveraient porte-close.
Mais
non, c'est
cas,
pas ça.
C'est
la richesse, elle est générée.
Monsieur.
La richesse, elle n'est pas détournée, elle n'est pas pillée,
si
elle est générée par les gens qui entreprennent.
Bon,
si
attendez.
Vous voulez être plus riche, générez-la, votre richesse. Non. Arrêtez de la piller auprès des autres.
Alors, mesdames, messieurs, Gérard Philoche, vous restez. Frédéric Georges Tudeau, vous prenez l'émission en cours. Bon, vous êtes bien sur RMC, c'est carrément Brunet. Et Gérard Philoche du Parti Socialiste est au téléphone. Frédéric Georges Tudeau qui signe un livre qui s'intitule Piketty au piquet est dans le studio. Le débat du jour, c'est un débat sur l'égalitarisme. Moi, j'estime que c'est une maladie grave de la France. Philoche n'est pas d'accord. Et il y a Gaël qui est au 3216, qui attend depuis un petit moment. Il m'appelle du Var. Il voudrait interpeller Gérard Philoche. Eh bien, il sera avec nous dans une petite minute. Mais tout de suite, Camille, s'il te plaît, peux-tu me dire comment est-ce que ça vote?
Alors, tu parlais de maladie qu'il faut combattre. Et ben maintenant, vous êtes 74% à penser comme toi, Eric. Voilà, 74% à penser que l'égalitarisme est une maladie française. Vous continuez de voter. RMC.fr et par SMS, c'est aussi 10-71.
A tout de suite.
Faites comme Eric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC 13h-14h, c'est carrément Brunet, Eric Brunet.
Mesdames, Messieurs, on parle d'égalitarisme. Frédéric Georges Tudeau, dans votre bouquin Piketty au piquet, vous vilipendez l'égalitarisme de Piketty. Il va loin, Piketty, sur cette question-là, ça ?
Oui, je vous remercie d'amener le sujet là-dessus, parce que bon, c'est bien gentil, là, on est en train de discuter. Philoche, il fait des moulinets, il amuse un petit peu la galerie, mais finalement, c'est sans conséquence. Alors qu'il faut bien voir quand même que le livre de Thomas Piketty est lu... et plébiscité dans le monde entier. Donc ça a quand même beaucoup plus d'importance, ce qui est préconisé.
Il va pas être content, Philoche.
Piketty,
expliquez-moi.
Et alors, lui, justement, qu'est-ce que c'est que les propositions, les recommandations de Thomas Piketty? C'est un ISF mondial, un impôt sur la fortune mondiale, de 10% au-delà d'un milliard,
ajouter à cela un impôt sur le revenu de 80% au-delà de 400 000 euros par an. Mmh. Donc ça fait quoi? Ça fait un taux d'impôt annuel de 330%. Je vais vous prendre deux exemples. Larry Ellison, c'est le patron d'Oracle. En 2013, dans le monde merveilleux de Thomas Piketty, il aurait touché 107 millions d'euros, ou sans doute de dollars, et il aurait payé 5 milliards d'impôts. Mmh. Mark Zuckerberg, toujours en 2013, en une seule année, il aurait payé 14 milliards d'impôts à cause de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire 42% de sa fortune serait partie en une seule fois. Mmh. Mais comment voulez-vous un seul instant que ces gens continuent à entreprendre? Alors bien sûr, vous allez nous dire, Gérard Filoche, qu'ils auront toujours assez, on connaît la chanson, blablabla. Bla 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 bla.
Ouais,
mais c'est pas le problème, bien sûr qu'ils auront toujours assez, c'est juste qu'ils s'arrêteront d'entreprendre. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de travailler, de travailler gratuitement.
Les cimetières sont pleins de patrons.
Et ceux qui prendront leur place, seront punis de la même manière et n'auront pas plus l'envie de travailler.
Quand ils auront trois maisons, cinq villas et trois yachts, ils arrêteront.
Ce n'est pas le problème, ce qu'ils ont et ce qu'ils ont besoin pour vivre. C'est simplement qu'ils ne veulent pas travailler pour rien. Vous ne pouvez pas travailler et être payé jusqu'à fin janvier et du 1er février au 31 décembre tout redonner. C'est ça le monde selon Piketty. Et alors, c'est probablement pas 31 janvier, c'est probablement le 15 janvier.
Attendez,
vous travaillez 15 jours.
Gérard, on va prendre Gaël qui veut vous parler. Il attend depuis 10 minutes, un quart d'heure au téléphone. Bonjour mon cher Gaël Duvar, 38 ans. Bonjour.
Bonjour Eric Brunet,
et
bonjour à votre invité Frédéric Georges Tudeau, et bonjour à Gérard Filoche qui, comme d'habitude, n'a pas la langue dans sa poche.
Bon, alors, Filoche, vous vouliez lui dire un truc, allez-y, je sais pas de quoi il s'agit d'ailleurs, mais...
Pour préciser, non, c'est qu'on s'est un petit peu mal compris avec le standardiste. Oui, effectivement, je suis souvent en accord avec Gérard Filoche, et je voulais rebondir sur ses propos, mais à la base, j'appelais parce que j'étais d'accord avec votre point de vue. Oui, c'est bizarre.
Vous êtes d'accord avec Filoche et avec moi, Gaël, attention, il doit pas y en avoir beaucoup.
tout simplement parce que la nuance dans votre sujet du jour, ça tient à une feuille de papier à cigarette, si vous voulez. Parce que la différence entre l'égalitarisme et l'égalité, c'est assez difficile à définir.
L'égalité, c'est l'égalité en droit, telle qu'on la trouve dans la plupart des grandes démocraties. L'égalitarisme, c'est l'obsession de la puissance publique pour corriger les inégalités sociales entre les gens. C'est, attention Gaël, vous gagnez ou moins que moi, eh bien je vais m'arranger pour, à travers un système allocatif, un système d'impôts, de redistribution, je vais m'arranger pour faire en sorte que Gaël perçoive toujours un chèque ou chaque mois, ou moi, si je gagne moins que vous, pour corriger les... Voilà, c'est ça l'égalitarisme.
Le débat entre vos deux invités, qui était un petit peu houleux par moment, l'a un petit peu montré. Je m'explique. L'égalitarisme, moi, je suis con, je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est un mirage idéologique qui est issu des courants de gauche. Hein, désolé de faire la politique, mais c'est vrai. Et l'égalité, l'égalitarisme, en tant que tel, ça n'existe pas. L'illégalité entre les êtres, déjà, elle se situe au niveau biologique, ça existe. Elle se situe au niveau social, au niveau géographique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les gens, n'est-ce pas... ils naissent égaux et libres en droit, enfin égaux en droit, mais ils naissent pas égaux face à la vie, vous voyez. Donc en fait, ce concept d'égalitarisme, effectivement, est complètement utopique. Et comme l'a dit quelqu'un, et vous avez passé le petit son de Sarkozy, qui disait que ce n'est pas l'égalitarisme, il faut pas confondre l'égalitarisme avec le nivellement, et je rajouterai nivellement par le bas, parce que c'est ça à quoi on assiste à la fin de l'histoire. Mais sur les terrains sur lesquels je combats l'égalitarisme, c'est par exemple, vous savez, ces concepts stupide d'égalité des chances. On nous ferait croire que l'ascenseur social va nous permettre tous d'arriver à des gros postes. On sait très bien que c'est pas vrai. Les cursus scolaires ne permettent pas à tout le monde d'atteindre les grandes écoles, etc. Donc ça n'existe pas. Mais par contre, dans le même temps, je suis entièrement d'accord avec Gérard Filoche quand il parle d'inégalité salariale ou de captation de richesse ou de problème de redistribution. C'est la vérité. Et ça, c'est pas utopique du tout. Ce sont juste des gens qui sont voraces, qui veulent tout capter, qui prennent tout et qui laissent pas la chance aux autres. Donc là, on n'est pas dans le problème du concept d'égalitarisme où on voudrait dans un monde de bisounours que tout le monde soit tout beau et tout rose. Mais ça, c'est un problème concret. Je suis désolé. C'est pour ça que pour moi, je ne mets pas spécialement en opposition le fait qu'on critique le concept d'intégration.
J'entends, mais d'ailleurs, je vous entends, Gaël, mais je me retourne vers Filoche. Il me semble qu'à part, effectivement, récupérer l'argent volé, il est évident que la question de l'argent volé à travers la fraude fiscale, elle est centrale. Mais à part ça, c'est-à-dire... récupérer les voleurs, quoi, et les mettre en prison, bien sûr. Mais à part ça, pourquoi mettre en place des politiques redistributives à ce point-là? Pourquoi cette obsession? Alors qu'au contraire,
dire aux gens, c'est simple à comprendre.
Amener les gens, prendre les gens par la main et lui dire, écoute, mon pote, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est devenir autonome, c'est devenir ton petit patron, générer ton activité, créer un truc, imaginer, construire, bâtir ta vie. Ça, c'est formidable. C'est la fameuse phrase, au lieu d'amener un poisson, je vais t'apprendre à pêcher. Mais moi, je crois à ça plus qu'à la redistribution.
Mais monsieur Brunet, vous savez très bien cette chose, et tout le monde le sait très bien, on va pas se mentir. L'économie mondiale ou locale, peu importe, c'est un gâteau. C'est un gâteau. On en prend une part, plus ou moins grosse, mais bien sûr que si, monsieur Brunet. Le gâteau grossit, mais bien sûr que si. La masse monétaire, c'est une somme, c'est quelque chose de fini. Elle grossit uniquement quand il y a de la croissance, et ça vous a pas échappé qu'il n'y a pas beaucoup de croissance en ce moment. Donc si jamais on fait pas de redistribution, je vois pas comment on peut faire. En plus, faire confiance aux bons patrons qui vont réinvestir, je pense qu'on a, et on n'a pas le temps, et je pense que c'est pas la peine de citer le nombre exemple. Alors, mais l'argent n'est pas redistribué, monsieur Brunet,
pourquoi ça marche partout? Alors pourquoi il y a 4-5% de chômage en Angleterre? Pourquoi il y a 5% de chômage? Pourquoi chez les autres ça marche?
Autorisez-moi une digression. Quand tout à l'heure votre ami
Frédéric Giorgino, pourquoi ces pays anglo-saxons qui sont parfois des pays durs où le chômage est très peu indemnisé en Angleterre, pourquoi est-ce que dans ces pays anglo-saxons il y a une vitalité alors qu'il y a une politique de redistribution assez ténue?
Vous allez me sortir
l'exemple de l'Allemagne qui n'est pas un pays anglo-saxon
où il y a des travailleurs pauvres. Dans les pays anglo-saxons.
Attendez, Frédéric Georges Tudor, rapidement.
Bien sûr qu'il faut défendre l'idée d'un filet de sécurité qui permet de venir en aide aux plus démunis. Il n'est pas question de les laisser mourir de faim dans la rue. Mais l'égalitarisme, ça n'a rien à voir avec ce principe. C'est juste une logique qui revient à refuser les inégalités qui sont liées au mérite. À chacun selon son mérite ou son goût du risque ou sa chance. Les beaux ne doivent rien aux laids, les génies ne doivent rien aux abrutis, les riches ne doivent rien aux pauvres. Pendant que François Pinault et Bernard Arnault voyagent en première, moi personnellement, qui ne suis pas à plaindre, je voyage en éco. Mmh. C'est moins marrant, c'est plus sympa de voyager en première, mais je leur demande pas de payer pour que je puisse vivre en première, pour que je puisse voyager en première, je leur demande pas de prendre en compte l'amélioration de mon niveau de vie. Ils ne me doivent rien, ils ne me connaissent pas.
Je suis d'accord avec ça. Bon, il est 13h59, faut arrêter, je suis désolé, pardon, merci, au revoir Gérard Filoche. Au revoir Gérard Filoche, au revoir à Gaël qui m'a appelé du Var, au revoir à Frédéric Georges Tudeau qui signe Piketty au piquet, enquête sur une imposture, dit-il aux éditions du Moment, le capital au 21e siècle. Voilà, Camille, il est 13h59, c'était, mais j'ai bien aimé ce débat, alors franchement j'ai bien aimé. Comment est-ce que ça a voté?
Alors, vous êtes finalement 7 sur 10 à penser que l'égalitarisme est une vraie maladie française et qu'il faut la combattre comme toute maladie.
Tu as pris en compte les messages par
SMS et sur rmc.fr.
D'accord. Merci les amis, dans un instant les infos.